Et puis là, bah, avec quoi est-ce qu'on peut continuer? Mais avec de l'ambiance, avec de la fête et avec un événement qui a pris des proportions immenses, hein, peut-être plus grandes que les instigateurs auraient pu imaginer toute cette semaine. C'est toi qui en parle, Xavier Borgeau, bonjour.
Hello. Effectivement, festivalière et festivalière, réjouissez-vous, car le Montreux Jazz Festival, c'est pour bientôt. Effectivement, du 3 au 18 juillet, la 60e édition de cet événement musical incontournable va vous faire vibrer au rythme de Tyla, Sienna, Spiro, Charlotte Cardin ou encore John Legend. Mais avant de se plonger corps et âme dans le vif du sujet, nous allons remonter le temps afin de mieux saisir l'histoire et surtout l'ADN du Montreux Jazz. Pour ce faire, nous sommes partis à la rencontre de Mathieu Jatton, directeur du festival, avec qui nous avons rembobiné le fil conducteur jusqu'en 1967, date de la création du Montreux Jazz par un certain Claude Nobs, un personnage entier et tellement passionné qu'il était capable de convaincre une artiste comme Aretha Franklin de venir se produire à Montreux grâce à deux boîtes de chocolat.
C'est le mythe, mais de nouveau, c'est cette force d'y croire tellement que ça va être possible. On disait toujours « nothing is impossible, Nobs ». Avec lui, c'était fascinant. On ne pouvait pas lui dire « c'est pas possible ». Il fallait toujours trouver un moyen de le faire. L'histoire d'Aretha, elle est tout à fait symptomatique. C'est-à-dire que finalement, il arrive à une période en 1971... où le cachet d'Aretha est beaucoup plus élevé que ce qu'il peut mettre sur la table. Et alors, il essaie de sortir tous les atouts de Montreux, hein, le lac, les montagnes, l'hôtel, etc., jusqu'à que le manager lui dise « how much ?». À un moment, il doit dire ce qu'il a dans la poche par rapport à ce qu'Aretha attend, mais néanmoins, il surprend, là, justement, par cette générosité inattendue, ce petit moment où il prend deux boîtes de chocolat et puis... On est en 1971, et puis là, le manager est quand même surpris. « Ah, bah oui, bien sûr, je vois Aretha ce soir, je vais lui donner vos chocolats. » Et le lendemain, c'est « Aretha Franklin loves your chocolate, she's coming to Montreux. » Pour moi, c'est des choses qui sont toujours restées marquées dans ma tête et dans l'esprit de toute l'équipe du festival. C'est qu'à la fin, on vit dans un monde de spectacle où il y a beaucoup de contraintes, où il y a beaucoup de risques, où il y a... Enfin voilà, on connaît le business de la musique aujourd'hui qui est compliqué, mais le fait d'avoir ça dans nos tripes, regardez pendant le Covid, ce qui s'est passé pendant le Covid, où on a quand même réussi à faire une scène sur le lac, le soir où Elton John nous appelle le 23 décembre en disant bah, « finalement je vais pas faire les deux concerts au Stravinsky, parce que je tourne plus avec la petite production, il faut faire une grande prod dans un stade de 15 000 places, mais comme vous n'allez pas, j'ai annulé ». Et puis on dit, ben si, on va le faire. Et deux, trois coups de téléphone. Et là, vous voyez, c'est une chaîne d'acteurs, en fait, qui ont été imprégnés par cet esprit de Claude. Puisque là, je l'appelle Laurent Verly, qui était syndic à l'époque. Il me dit, ouais, attends, c'est bon, on va trouver une solution. On appelle les gens du stade, on appelle tout ça. Et tout le monde trouve une solution. Et c'est magique.
Parce qu'il y a cette envie de... Vous vous rappelez de votre première rencontre avec Claude Nobs?
Oui, bien sûr. Marqué. Indélébile.
Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
En fait, ma première rencontre, j'avais 16 ans. J'étais musicien amateur avec des amis et c'est vrai que ça a toujours été un rêve de rencontrer Claude et en tout cas de lui faire écouter la musique qu'on faisait sans vraiment avoir en tête de jouer au Montreux Jazz Festival. C'était plutôt l'avis de Claude Nobs, directeur de Warner Music, qui nous intéressait. Et puis, je me rappelle avoir essayé plusieurs fois de téléphoner. Et ça, c'est une autre qualité incroyable de Claude. C'est qu'il a toujours été d'une loyauté et d'une reconnaissance pour les gens qui lui ont rendu service quand il a fait le festival. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et mon papa faisait partie de ces gens qui lui ont donné un coup de main au tout début du festival. Et c'est vrai qu'après trois téléphones où je me présente, je me rappelle très bien son assistante, d'un coup, elle me dit « Ah, mais attendez une seconde !» Et après une seconde, c'est Claude qui prend le téléphone et qui dit « Salut Mathieu, comment vas-tu ?» Moi, totalement estomaqué, je ne comprends rien de ce qui passe. Et là, il me dit « Ah ben tiens, super, tu fais la musique, passe au bureau lundi, je serai là, etc. » Là, moi, les jambes qui tremblent, je ne sais plus. Et on arrive dans son bureau et on passe une heure ensemble, il écoute l'intégralité de la démo. Moi, j'y croyais pas une seconde. En fait, je pensais qu'on allait rester 10 minutes. Il a dit c'est sympa les gars, continuez à bosser parce qu'il y avait de quoi bosser encore. Et on a passé quasiment une heure. On était le bassiste et moi dans le bureau et on a écouté toute la démo. Et j'ai cette image là fascinante. Je me rappelle, je vois ce grand bureau. Il y avait une immense affiche du festival derrière. Il y avait un tableau des Rolling Stones. Il y avait tous les prix, les disques d'or de Warner Music, WEA, Atlantic, etc. Donc, tu rentres dans un truc, c'était atterrité encore. Et sur l'étagère de Claude, la photo de sa maman. Et au moment où je suis rentré dans ce bureau et que j'ai vu ça, ça m'a tellement touché. Parce que tout d'un coup, j'ai vu cet immense bonhomme pour moi. Et puis, je vois l'image de sa maman. Et ça m'a donné en fait une vision complètement différente. Et c'était mon premier vrai souvenir avec Claude.
Après, on avance dans le temps, on grandit, on apprend beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la transmission ? Comment est-ce qu'il vous a nourri ?
Alors, en permanence, mais sans le nommer. C'est-à-dire que, et je trouvais que c'était d'autant plus beau, c'est-à-dire qu'on n'en a jamais parlé. On ne parlait pas de transmission. On ne parlait pas de dire, ah tiens, aujourd'hui...
Ça se faisait naturellement, c'était quelque chose de naturel.
Je vais t'expliquer un truc, je vais te montrer comment ça se passe. Ça se faisait sur le tas, ça se faisait la tête sous l'eau, hein, clairement. Un peu à l'ancienne, hein, c'est-à-dire que ben
il avait son tempérament aussi.
Oui. Et puis c'était
fallait suivre.
Ouais. On parlait de nothing is impossible, mais que c'est au quotidien, c'est pas facile, hein. parce qu'il lâchait pas l'affaire. Donc on lui disait non, c'est pas possible, et puis il lâchait pas l'affaire jusqu'au bout. Donc c'est une sacrée école de vie, c'est une sacrée abnégation aussi, hein, que ça soit dans les voyages, dans les déplacements, dans les horaires. On n'avait pas d'horaire. Enfin, Claude nous appelait samedi soir à 2h du matin. Enfin, je veux dire. Pour moi, c'est devenu normal. Mais c'était vraiment d'abord un apprentissage de vie, comme ça, et je l'ai pris comme ça. Et j'ai souvent un peu regardé dans le rétroviseur, c'était assez fascinant. Parce que donc, moi, je suis rentré comme membre du bureau permanent sponsoring marketing, j'avais 24 ans, et à 25 ans, il m'a nommé secrétaire général. Le conseil de fondation, avec François Carrard, m'ont nommé secrétaire général. Je me rappelle, je suis dans la voiture avec Claude, on rentre de ce conseil-là où j'ai été nommé, je demande à Claude, je dis, Claude, ça veut dire quoi, en fait ? Et là, il me regarde très sincèrement, il me dit « J'en sais rien, mais j'ai envie de construire l'avenir avec toi et on verra de quoi il sera fait. »
Et pour connaître l'avenir du Montreux Jazz Festival, je vous propose de retrouver Mathieu Jattan demain soir pour parler de ce moment charnière marqué par la notion de transmission et de confiance mutuelle. Une très belle histoire quand même.
Mais à part ça, ça rajoute au mythe du Montreux Jazz, quoi, cette histoire-là. C'est un truc de dingue.
C'est un truc de dingue, mais c'est quelque chose de très humain aussi. C'est ça qui est beau, et cet échange avec Mathieu Jattan. On sent encore... cette émotion qui est bien présente et qui se ressent tout au long du festival.
C'est un truc de fou. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est malheureux. Hein. Merci beaucoup et à demain, Xavier.
À demain.